Les nuits peuples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, c'est Matt et on est ensemble jusqu'à midi et demi. Aujourd'hui au programme, je vais vous parler d'un petit jeu de cartes et puis on retrouvera Ludo comme tous les lundis pour le point sur les J. Aujourd'hui on va parler des auteurs, est-ce qu'ils sont pas assez payés les auteurs de jeux? On vous en parle d'ici quelques instants. C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Matt pour t'inviter à jouer.
Et au menu aujourd'hui, c'est Once Upon a Draft, un jeu de Joe Out illustré par Jan Bintakis pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans. Alors ce jeu de draft et de pli édité par Gigamic se passera dans un livre magique en 3 chapitres qui nous raconte des contes de fées. Alors au niveau du matériel, vous avez 50 cartes avec des valeurs allant de 1 à 50. Sur ces cartes, vous avez un personnage de conte de fées. Dans la boîte, vous retrouverez aussi des jetons en bois composés de gemmes, de cœurs et d'étoiles. Dans le jeu, il y aura donc 3 phases, à savoir donc 3 chapitres. Et bien voilà, vous êtes prêts à jouer. Mais alors comment on joue? Et bien lors du premier chapitre, vous allez recevoir 8 cartes. Vous en choisissez une, puis passez les cartes restantes à votre voisin. On continue comme ça jusqu'à avoir 7 cartes en main. La dernière est défaussée, c'est le principe du draft. Voilà donc le premier chapitre est terminé, c'est pas très compliqué. Vous avez donc 7 cartes en main. Passons au chapitre 2, c'est la phase de pli. Alors chaque joueur à son tour va jouer une carte de sa main. La carte de plus haute valeur remporte le pli et reçoit une étoile de la réserve. Puis ensuite, on va appliquer chacun notre tour l'effet de notre carte. Tous les joueurs auront la possibilité donc de gagner à ce moment-là des gemmes, des cœurs ou des étoiles en fonction de ce qui est marqué sur la carte. Le calcul doit être effectué une fois que toutes les cartes ont été jouées. Ensuite, contrairement au jeu de pli classique, vous ne remportez pas le pli, non, vous allez reprendre votre carte que vous posez devant vous. La personne qui a remporté le tour entame le nouveau pli, et ainsi de suite. Quand toutes les cartes ont été jouées, vous avez donc 7 cartes devant vous. On va pouvoir passer à la dernière phase, le chapitre 3. Et là, on va de nouveau activer toutes les capacités des cartes. On prend chaque carte une par une et on récupère les récompenses. Par exemple, vous avez gagné 4 gemmes avec le petit chaperon rouge, mais seulement si vous avez le grand méchant loup. Alors, vous avez pu combattre le méchant loup en chapitre 2, mais vous pouvez aussi l'avoir dans votre jeu. Vous avez les deux, donc du coup, vous combattez. À la fin de la partie, on fait le calcul de tous les jetons que vous avez. Celui qui a le plus de gemmes récupère 4 gemmes bonus. Et ensuite, chaque joueur valide ses points, à savoir 2 points pour les étoiles, 1 point pour les cœurs et 1 point pour une paire de 2 gemmes. La personne qui a le plus de points remporte la partie tout simplement. Once Upon a Draft nous propose également un mode de 2 joueurs. Alors ce que j'en pense, Once Upon a Draft c'est un jeu qui va mélanger donc le draft, le pli et les effets à la Fantasy Realms qui est l'un de mes jeux préférés à combo. Donc ça marche super bien. Dans Once Upon a Draft, vous allez utiliser 2 fois les capacités des cartes au chapitre 2 face aux cartes de vos adversaires. Et au chapitre 3, avec toutes vos cartes. Il faut savoir donc que toutes les phases sont importantes. Dans Once Upon a Draft, l'idée, c'est de faire comboter vos cartes, donc la mémoire joue aussi, afin de se rappeler des cartes. Quelle carte peut être associée à qui? Voilà, ça s'appelle donc Once Upon a Draft, et ça vient de sortir chez Gigamic. C'est les petits jeux dans les boîtes à tiroirs maintenant, ça, ce qui vient de remplacer les boîtes métal. Allez, d'ici quelques instants, c'est Ludo qui arrive pour le point sur les J.
C'est la pause du midi, il te donne son avis. C'est ludique, c'est ludique, c'est le point sur les J.
Et aujourd'hui, dans le point sur les J, comme tous les lundis, on retrouve Ludo. Salut Ludo!
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous.
Et le sujet du jour, les auteurs de jeux sont-ils assez rémunérés? Un gros dossier encore aujourd'hui, Ludo.
Comme tous les lundis,
c'est
allez,
ça.
On y va,
allez,
on se lance.
On se lance,
alors,
c'est parti.
Déjà, on va s'appuyer sur Wikipédia pour savoir ce que c'est qu'un auteur de jeu de société. C'est aussi appelé créateur de jeu ou inventeur de jeu.
Ouais.
Donc, c'est une personne qui va inventer les règles d'un jeu de société, définir son matériel et son thème, généralement pour ces deux dernières choses, en accord avec l'éditeur qu'il aura rencontré pour éditer son jeu.
Mmh.
Alors, selon la SAGE, la Société des auteurs de jeux, qui est une association de regroupement d'auteurs qui a été fondée en 2017, déjà 7 ans, l'auteur de jeux de société, c'est un métier qui doit être recensé au répertoire officiel des métiers et de l'emploi le montant des droits d'auteur doit représenter un pourcentage ferme et décent, qui ne doit pas être revu à la baisse sous quelque prétexte que ce soit, et l'auteur doit être rémunéré ou à minima défrayé pour toute action d'animation, de promotion ou de dédicace, comme cela devrait être le cas dans tous les secteurs de la création.
Exactement.
Alors, pourquoi cette association a-t-elle été créée? Donc, l'ASAGE est née d'un constat qui est lié à l'évolution du marché du jeu de société. Et là, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Le nombre de jeux édités augmente. Le nombre d'éditeurs également. Le nombre d'auteurs, bah, ça va avec. Donc, le milieu du jeu de société se professionnalise indéniablement. Et force a été de constater que les auteurs n'étaient pas formellement représentés ni organisés. Donc, la question du statut fiscal de l'auteur par rapport aux institutions françaises, plus la reconnaissance du métier d'auteur de jeu, et on ajoute à ça les difficultés pour les auteurs de jeu à se professionnaliser, sont autant de problèmes qui restent à résoudre collectivement, d'où la création de cette association. Ouais. Alors, l'ASAGE, ça propose aussi, et notamment sur son site internet, des documents, ils ont travaillé sur l'élaboration de documents, donc tu vas avoir un contrat d'édition type, un guide de négociation, oui, c'est vrai, un guide de négociation, puisque c'est un métier où on négocie aussi. Des documents pour bien déclarer ses jeux auprès de l'administration fiscale, et oui, on n'a pas tous un comptable ludique, et des conseils sur la démarche de financement participatif aussi, on en parlait lors du premier sujet.
Ouais.
À l'heure actuelle, c'est Olivier Mailly, qui est auteur de jeux et président de l'ASAGE, et qui préside un bureau de 15 autrices et auteurs. Et je n'ai pas trouvé l'information de savoir combien il y avait d'auteurs représentés qui avaient leur adhésion à l'ASAGE. Donc, bah, si quelqu'un a l'info, je suis preneur. Alors, j'aurais pu effectivement demander, je connais des auteurs, mais c'est vrai que j'ai pas pensé. Voilà. Bon. En tout cas, ils sont beaucoup à l'ASAGE. Et là, maintenant, maths, on va faire des maths ce matin, maths.
Ah, on va faire des maths.
Décidément, il y a trop de sons maths dans cette phrase. Alors, selon Ludovox, dans un article qui a été publié sur leur site en août 2020 par Mathieu Béget, qui est aussi auteur de jeux, il nous dit, dans le monde du jeu de société, les auteurs de jeux seraient rémunérés en moyenne 2,5% du prix final d'un jeu. Vous avez bien entendu, 2,5%. Alors, c'est un calcul qui est directement tiré des résultats de la consultation des auteurs de jeux de société qui avait été effectuée par l'ASAGE en 2018. Alors ensuite, il explique le détail du partage du gâteau avec la répartition de l'argent par rapport à l'édition et la vente. Alors, en économie, on appelle ça la chaîne des valeurs. Dans tous les autres domaines, c'est pareil. Cette chaîne des valeurs, elle est relativement stable dans le milieu ludique. On va prendre un exemple sur un jeu à 30 euros TTC, toute charge comprise.
Ouais.
Donc ça va se découper de la façon suivante. L'auteur, il va gagner 75 centimes d'euros.
Okay.
Et, alors on va retirer en plus dessus les frais de présence en festival et les frais de prototypage qui en général
sont pris. On en parlera tout à l'heure justement de ça.
Que par lui. Hein.
Ouais.
Ensuite, l'éditeur, il va prendre 10,50 euros. Alors on va retirer la rémunération de l'auteur qu'on a vu, 75 centimes, la fabrication du jeu, 5 euros. L'illustration, le graphisme, la communication et les charges diverses et les salaires s'il y a des membres, des salariés dans l'équipe.
Ouais.
Le distributeur, donc une troisième couche, lui va prendre 4,50 euros. On va retirer les frais de logistique, le stockage et l'emballage des colis, les frais d'expédition en boutique, les charges diverses et les salaires effectivement de l'équipe du distributeur.
Mmh.
Enfin, alors pas enfin, mais la boutique, c'est là où on achète notre jeu, Matt,
oui.
10 euros. On doit retirer la location de la boutique, s'il y a une location, les charges diverses, les pertes liées aux invendus, les salaires de l'équipe, et l'État va prendre, lui, 5 euros, c'est notre cher TVA.
Voilà.
Alors, si on rentre dans le détail, l'éditeur, lui, va vendre le jeu à la boutique à 50% hors taxe du prix de vente conseillé. Donc,
oui.
Pour un jeu qui est vendu 30 euros en magasin, l'éditeur, il va le vendre 15 euros hors taxe.
Ouais.
Mais bon, il est rarement tout seul, hein, il passe souvent par un distributeur qui, lui, va prendre une commission de 20 à 40%. C'est le plus souvent c'est 30%, hein, donc c'est pour ça qu'on est arrivé à 4,50€, et l'éditeur il va reverser donc à l'auteur un pourcentage du chiffre d'affaires, et en général c'est environ 3% du prix public hors taxe.
Okay.
Donc du coup, pour un jeu vendu à 30€ tiré à 3000 exemplaires, l'auteur touchera une rémunération égale environ à 2250€. Alors tu vas me dire, bah, c'est pas mal ça, 2250€ quand même sur 3000 jeux vendus.
Ouais, mais enfin 3000 c'est déjà pas mal déjà, il faut les vendre les 3000.
Ouais, Ouais, c'est ça. Alors déjà, il faut faire 3000. Bon, c'est une implantation, on va dire, un peu moyenne sur un éditeur moyen dans une vie moyenne, ouais. On va dire. Mais quand on reporte cette rémunération à d'autres critères comme le temps de création, les actions de promotion, les déplacements, et puis surtout, quelque chose qu'on parle jamais, le délai entre la signature du contrat et la sortie réelle du jeu en boutique. Ouais. Il se passe quoi à ce moment-là, Matt ? Je signe chez un éditeur.
Oui, alors il y a peut-être une avance, non ?
Alors, parfois, il y a des avances. Là, pour l'instant, c'est encore un peu au cas par cas, selon le type de jeu, selon l'éditeur, selon le marché, etc. Mais effectivement, ça arrive souvent qu'il y ait une avance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce dérèglement financier ? Parce que pour moi, il y a effectivement un dérèglement. Alors, il y a plusieurs solutions. Alors, on peut retirer des intermédiaires.
Ouais.
Gentiment, hein, pas avec la force. Hein, donc, par exemple, l'auto-édition ou alors le financement participatif, bah, forcément, hein, on enlève des couches. Donc, bah, l'auteur, forcément, est mieux rémunéré, surtout si c'est lui qui s'auto-édite et si c'est lui qui lance son Kickstarter.
Mais le financement participatif, donc, du coup, le jeu ne va pas se retrouver en boutique, donc on va toucher moins de monde aussi.
Bah, c'est ça. Donc, bon, c'est pas une solution forcément qui est peut-être... Et puis, c'est semé d'embûches également. Hein. On peut aussi augmenter les prix des jeux.
Ouais.
Bon, bah, ça peut être une solution. Maintenant, il faut voir si l'augmentation du prix va bien se répercuter. Ou on peut recalculer la part de chacun dans ce circuit de distribution. Alors, pour faire ça, il faudrait que tout le monde se réunisse autour d'une table, une grande table hein, de préférence, et puis va revoir la répartition des valeurs. Alors, il y a une première marche qui a été gravie depuis peu, depuis mars 2023. Il y a la création d'une autre association qui s'appelle le GIJS. C'est le groupement interprofessionnel du jeu de société.
D'accord.
Et à l'intérieur, on va retrouver l'AWEJ, l'Union des éditeurs de jeux, la SAGE, qu'on a précédemment parlé, la Société des auteurs de jeux, mais aussi le CIL, la CIL, pardon, la Charte des illustratrices ludiques, le GBL, le groupement des boutiques. Donc là, on a déjà tout le monde, tu vois, autour de la table. Alors en plus, ils ont rajouté les ludothécaires, les cafés ludiques et la ruche ludique qui sont une association d'organisation de festivals. Donc bah voilà, tout le monde est déjà réuni, hein. Il n'y a plus qu'à trouver la table.
Hein, moi, il faut une grande table.
Ouais. Alors du coup, de là à parler de la rémunération des auteurs du monde du jeu de société, c'est particulièrement donc des auteurs et autrices de jeux, il n'y a qu'un pas hein, pour pouvoir tout le monde est réuni. Alors, on sait, avec ce regroupement, il y a des chiffres là qui ont été mis en place. Il y a un panorama qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors, on y apprend pas mal de choses, comme le prix moyen d'une boîte, là, en 2024, c'est 18,30 €. Ou alors, le top 3 des auteurs français. Est-ce que tu le sais, ça ?
Ah bah, le top 3, alors je pense qu'il doit y avoir...
Dans le monde, hein.
Ah, dans le monde des auteurs français, dans le monde ?
Ouais.
Ah bah, on doit avoir Bruno Catala ?
Ah non, pas du tout.
Ah non ?
Alors, j'y vais, regarde. Il y a Albert Lamoris. C'est... L'inventeur et le créateur du risque.
Ah oui, d'accord.
25 millions de jeux vendus.
Ah oui, ok.
Jean-Louis Roubira, lui, tu connais, c'est
celui
qui a créé Dixit. 12 millions de jeux vendus.
Bien sûr.
Et enfin, en troisième position, on a Michel Lallet et Laurent Lévy qui ont créé Abalone avec 10 millions de jeux vendus.
D'accord.
Donc tu vois, on est sur des jeux quand même un peu très fort grand public.
Oui.
Alors,
ouais.
On apprend aussi que les auteurs et les autrices de jeux en France sont au nombre de 1000. À peu près, à quelques pourcentages près, et il y en a seulement que 5% qui vivent actuellement de ce statut. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que il y a des regroupements d'auteurs qui ont vu le jour et qui continuent à voir le jour partout en France dans les régions. Alors, il y a la CAL, par exemple, la Compagnie des auteurs lyonnais, ou le BOCAL, le Bureau officiel des créateurs angevins ludiques, ou le MALT, là où j'ai pas mal de copains, le Mouvement des auteurs ludiques toulousains.
Il y a aussi la cafetière. Avec
et la cafetière, mais il y en a plein en fait. Moi j'ai été voir sur le site, il y en a plein avec des noms plus ou moins rigolos d'ailleurs. Ils se lâchent un peu les auteurs. Alors ce regroupement permet d'améliorer les échanges et notamment les partages d'expériences sur les jeux, mais aussi sur les contrats et la rémunération, parce que ces associations mélangent aussi des auteurs qui ont été édités et d'autres qui sont en passe de l'être ou qui veulent l'être.
Mmh.
Alors pour ma part, considérant aussi hein, que l'auteur devrait être mieux rémunéré dans son ensemble, j'imagine une autre piste de réflexion qui est peut-être plus en adéquation avec mon métier d'ludothécaire, c'est de rajouter une enveloppe rémunératrice dans tout ça, les droits des prêts des jeux.
D'accord.
Au même titre que pour les livres, dès lors que le jeu de société est considéré comme un bien culturel, il me paraît évident qu'un droit de prêt devrait être payé par les établissements faisant du prêt de jeux de société, comme les ludothèques hein, ou autres lieux ludiques qui s'y engagent. Il y a déjà une structure qui existe, Matt, là-dessus, c'est la SOFIA.
D'accord.
La Société française des intérêts des auteurs. C'est un organisme de gestion collective et de collecte qui est administré à parité par des auteurs et des éditeurs dans le domaine exclusif du livre pour l'instant. Et comme ça existe déjà, bah, ça rajoutera déjà une officialisation de la pratique des prêts de jeu, parce que pour l'instant c'est un peu opaque, je t'avouerai, et cela contribuerait aussi à rémunérer mieux les auteurs de jeux sur un délai beaucoup plus long et sûrement plus régulier, parce que c'est important la régularité d'une rémunération. Alors je conclurai là-dessus, parce que les auteurs sont essentiels dans la création et la pérennité des jeux de société. Si on veut continuer à jouer correctement, dans de bonnes conditions et à des super jeux, il faut rémunérer les auteurs à juste titre.
Merci beaucoup Ludo. Et moi je vais finir avec un post de Romaric Gallonnier hier sur Facebook, ouais, qui est tout neuf. Il expliquait que bah, d'aller dans les festivals et tout ça, ça coûtait cher pour lui, notamment.
Exactement.
Entre le badge professionnel à 75 euros, avec les frais de déplacement, les frais d'hébergement, il y en avait pour 250 euros au total. Mmh. Et du coup il s'est livré un petit calcul, combien de boîtes de Focus, le jeu donc qu'il a sorti avec Antonin Bocara, combien de boîtes devaient être vendues de Focus pour rentabiliser ces 250 euros de frais? Eh bien, il a donné le calcul ce matin. Donc, ouais. La réponse est 1666 boîtes.
C'est fou.
C'est fou.
Hein, ouais, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte. Et dans mon métier, c'est vrai que quand j'accueille des auteurs, il y a un contrat qui est fait, comme pour les auteurs de BD ou de livres qui sont reçus en médiathèque. Parce que c'est important quand ils rencontrent leur public ou quand ils doivent faire en fait une intervention ou même expliquer leur jeu. Enfin voilà, quand ils se présentent en fait au public, pour moi c'est quelque chose qui doit être rémunéré sur leur temps et ça fait partie aussi de la professionnalisation de l'auteur de jeux de société et ça va dans le bon sens.
Ouais. Et donc, du coup, c'est un revenu brut, hein, bien sûr, ce qu'il faut déduire, hein, les cotisations à l'URSSAF et tout. Hein. Et puis là, ils sont deux auteurs en plus, hein, donc c'est pour ça aussi.
L'État passe par là.
Donc, voilà. Donc, en gros, c'est ce que tu disais, il est très difficile aussi de se professionnaliser en tant qu'auteur de jeu.
C'est compliqué, mais pour l'instant, les regroupements et le JIS notamment, a réussi en fait à passer déjà les portes de l'Assemblée nationale, à rencontrer en fait des députés pour pouvoir porter cette voix commune au secteur afin de reconnaître le jeu comme un bien culturel. Alors ça aurait des impacts sur la TVA et du coup ça aurait peut-être aussi des impacts sur des chèques loisirs ou des chèques, tu sais comme on fait pour les livres, là les chèques culture et ça permettrait de pouvoir, parce que pour l'instant c'est un peu le bazar, il y a des endroits où on peut les utiliser, d'autres non, ça permettrait de d'avoir peut-être aussi une reconnaissance, la reconnaissance fiscale des impôts c'est fait. C'est bon, il y a une ligne maintenant où ça vous retrouvez toutes les infos sur le site de la SAGE, mais maintenant il faut une reconnaissance aussi du grand public et une reconnaissance peut-être plus liée au prix des jeux, au système de distribution, etc.
Ouais. Et il finit son poste, Romaric, en disant que finalement, qu'il aurait plus à gagner en faisant de la vente directe de ses propres jeux. Parce qu'il disait que s'il vendait, par exemple, en vente directe une boîte de Focus, il ferait une marge d'environ 8 euros, soit 50 fois plus que le montant de ses droits d'auteur.
Ouais, mais tu connais Romaric ou pas?
Oui, oui, je connais un petit
peu. Parce que lui, il a plutôt tendance à les donner, ses jeux, qu'à les vendre. Donc, je pense qu'il ne pourrait pas en vivre.
Ouais, donc déjà, oui, ça poserait effectivement un problème. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications, Ludo, et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau point sur les J.
Oui, alors lundi prochain, on va parler, tac, tac, tac.
On va parler
de... Un éditeur de locomotive.
À quoi?
Alors, on va parler d'éditeur et de locomotive, en fait.
On va parler
pas le rapport.
Des aventuriers du rail, on va parler.
Non, pas tout à fait, mais ça rentre dedans quand même.
Oui, ouais. En gros, on va parler d'un jeu qui est locomotive pour un éditeur.
C'est-à-dire exactement.
Et qui lui permet de faire d'autres jeux grâce à cette locomotive.
Exactement.
Voilà.
C'est ça.
Merci beaucoup, Ludo, et à lundi prochain.
Avec plaisir, bonne semaine à
tous. Salut.